Donc, on continue à aborder ce thème. Dieu est vivant en nous. Donc, le mardi 1er avril, j'avais donc parlé, partagé avec vous sur cette pensée. Qui se souvient?
L'Alliance.
Non, Dieu est vivant. C'était ma première intervention. La semaine dernière, effectivement, j'ai partagé sur cette pensée que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et vous savez ce qui s'est passé le mardi dernier? On rentre chez moi, donc le soir, comme d'habitude, hein, avant d'aller me coucher, je lis ma Bible. Hein, je fais ma lecture quotidienne le soir aussi. J'avais terminé de lire le livre d'Exode. Exode se termine donc par le tabernacle qui a été consacré. Et la Bible nous dit que la gloire de Dieu a rempli le tabernacle. Même Moïse ne pouvait pas entrer dans le tabernacle. Et après Exode, on a le livre Lévitique. Donc j'ai commencé à lire Lévitique. Vous avez lu Lévitique?
Non.
Donc ce soir-là, mardi, donc après mon intervention concernant que Dieu, quand j'ai partagé avec vous, que Dieu est un Dieu d'alliance, j'ai commencé à lire Lévitique. Et en arrivant au chapitre 2, je vais te demander donc de mettre ce passage. Hein? Lévitique, chapitre 2, verset 13, s'il te plaît. Lévitique, chapitre 2, verset 13. Je suis arrivé donc à ce verset, je me suis arrêté. Et là, ça m'a travaillé encore. Alors, il est dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Vous savez, le livre de Lévitique contient les prescriptions relatives au culte, d'accord, des règles civiles, des règles morales, ainsi que Dieu va attirer l'attention du peuple, que le peuple devait refléter la sainteté de Dieu. Donc, quand je lisais ma Bible, j'arrive à ce verset, mon attention est attirée. Et là, il nous est parlé de l'offrande végétale. Et Dieu dit ceci, tu mettrais du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Là, il est parlé du sel. Le sel, signe de l'alliance. Dans la Bible, le sel a bien sûr une signification spirituelle. C'est un symbole de la purification, de la conservation et de l'alliance avec Dieu. Là, il est dit le sel, signe de l'alliance. Alors, je vais vous montrer également un autre passage. Tu mets à l'écran, s'il te plaît, 2 Chroniques, chapitre 13, verset 5. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 5. En fait, pour vous donner le contexte, là, il s'agit du roi Abijah, le roi de Juda, qui était donc en guerre avec le roi d'Israël, Jéroboam. Et là, il est dit ceci. Donc ça, c'est le roi Abijah qui parle. Il dit ceci à ces gens qui étaient rassemblés, les gens de Jéroboam. Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses descendants, pour une alliance inviolable? Retenez ce mot. Là, il est parlé d'une alliance inviolable. Dans d'autres versions, par exemple en russe, le mot là, inviolable utilisé, c'est le mot sel. Et dans la version d'Arbi, c'est écrit, n'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, Le Dieu d'Israël a donné à David la royauté sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, par une alliance de sel. David dit alliance de sel. Et également, la Bible française courant, pareil, il dit ceci. N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, par une alliance de sel. Et j'ai regardé la version anglaise, King James. Il dit ceci, a covenant of salt. Salt, c'est de sel. L'alliance de sel. Ça m'a travaillé. Le signe de l'alliance. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples? Vous êtes le sel de la terre. Oh, Seigneur. On avait parlé de l'alliance que Jésus a conclue par son sang. La nouvelle alliance, c'est l'alliance par le sang de Jésus. On est bien d'accord. Parce qu'il a donné sa vie. L'alliance par le sang. Mais là, Dieu nous parle également d'un signe, le sel, l'alliance. Parce que Dieu nous a appelés, comme il a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Autrement dit, Jésus leur disait que je vous demande de préserver la justice et la paix et d'apporter une valeur spirituelle à ce monde. Et nous sommes aussi appelés sel de la terre. C'est ce que Dieu attend de nous. Là, il est bien dit que le sel, le signe de l'alliance, nous sommes appelés d'être sel de la terre. Ça veut déjà commencer dans mon foyer. Tu dois être le sel pour ton mari, tu dois être le sel pour ta femme, tu dois être le sel pour tes enfants, tu dois être le sel pour ta famille, tu dois être le sel de ton entourage. C'est ce que Jésus attend de nous. Nous devons apporter cette valeur spirituelle. Nous devons apporter le goût au monde. Parce que le sel apporte le goût. Le sel que nous utilisons toujours dans notre nourriture. Parce que nous sommes aussi une offrande pour Dieu. Nous devons consacrer notre vie à Dieu comme une offrande. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc comprenons bien que Jésus nous a fait entrer dans cette alliance par son sacrifice, la donnant sa vie. C'est la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus qui a été versé. Mais il attend également de nous que nous soyons maintenant le sel de la terre. Parce que c'est le signe de l'alliance, ce qu'il dit. C'est ça. Ça m'a travaillé. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Ça continue à me travailler. Et Dieu nous change, Dieu nous transforme. Et il veut que nous soyons vraiment ces personnes, nous soyons vraiment ses représentants dans ce monde. Et ce soir, je vais continuer sur cette pensée que Dieu, vivant en nous, par son esprit. Dieu est vivant en nous par son esprit. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est l'esprit que Dieu a mis dans l'homme.
Amen.
Et Jésus est venu pour rétablir cette identité de l'homme créé à l'image même de Dieu. Depuis la chute de l'homme par son obéissance à Dieu, bien que le péché ait séparé l'homme de Dieu, Dieu a toujours voulu habiter dans l'homme.
Amen.
On va prendre un passage, Ézéchiel. C'est dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1 à 14. C'est un peu long, on va lire ce passage, c'est très intéressant. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 14. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivre. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors, l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors, vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Dans cette vision qu'Ézéchiel a eue, nous pouvons retenir ceci. Il nous a parlé des ossements desséchés. C'est l'image d'un homme mort. Un homme sans esprit de Dieu. Un homme sans vie. Et il nous a parlé de l'Esprit de Dieu qui redonne vie. Nous lisons bien ce que le Seigneur dit au verset 5. Je vais faire vie venir en vous, l'Esprit, et vous revivrez. Au verset 6, je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez. Au verset 10, l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et au verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Donc là, il est bien parlé de l'Esprit qui donne vie. Parce que l'homme sans l'Esprit de Dieu est mort. Ézéchiel lui-même a vécu également cette expérience spirituelle. Et il nous est dit au chapitre 2, verset 1, là c'est Ézéchiel qui parle. Il m'a dit, c'est-à-dire l'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. » Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Et au chapitre 3, verset 24, il dit encore ceci. L'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Il m'a parlé et m'a dit, va t'enfermer chez toi. Donc là, on voit bien l'action de l'Esprit qui entre dans l'homme. Oui, Dieu habite en nous par son Esprit. Et nous devons signaler que pour que Dieu habite en nous, l'Éternel appelle à la repentance. C'est la condition. La repentance. Un changement d'attitude. Un changement de pensée. Cela nous renvoie bien sûr à une transformation radicale de la personne qui renonce à ses mauvais actes pour adopter un nouveau comportement. Une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Avec la venue de Jésus, Dieu était déjà avec son peuple. Il est appelé Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu était avec son peuple. Et quand Jean est apparu, son message était clair. Il a appelé le peuple à la repentance. Quand Jésus a commencé son ministère, il a appelé le peuple à la repentance. On va lire dans Marc, tu peux mettre ça, Marc chapitre 1, hein, versets 14 et 15. L'évangile selon Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait: le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu était là en la personne de Jésus. Le royaume de Dieu était là, mais il appelle le peuple à la repentance. Dans un sens large, le royaume de Dieu, c'est le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. Et dans un sens plus étroit, le royaume de Dieu, c'est le règne spirituel sur les vies, sur les cœurs de ceux qui se soumettent volontairement à la volonté divine, à la volonté, à l'autorité de Dieu. Un jour, les pharisiens, ils vont demander à Jésus: mais quand viendra le royaume de Dieu? Ces hommes religieux qui connaissaient bien la parole, les Écritures. Et nous lisons ceci dans Luc chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus: quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas: il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les pharisiens croyaient que ce serait un royaume physique qui restaurerait le trône de David, qui chasserait les différentes nations sous la domination desquelles Israël avait vécu pendant de nombreux siècles. Et ils pensaient que c'était pour élever Israël à une position de puissance dans le monde comme une nation élue de Dieu. Mais là, Jésus dit, il parle du royaume de Dieu, qui est le règne spirituel. Le royaume de Dieu était parmi eux. Ils devaient juste accepter Jésus comme fils de Dieu dans leur vie. D'où, bien sûr, la nécessité de naître de nouveau. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Il a parlé. Et il a, lors de son entretien avec Nicodème, il a bien dit que il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que ce qui naît de la chair est chair. Et ce qui naît de l'esprit est esprit. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Parce que Dieu est esprit. C'est par la nouvelle naissance, la naissance de l'esprit, que Dieu vient habiter en nous. Dieu crée sa demeure dans l'homme. Il faut naître de nouveau. Et il y a un passage qu'on cite souvent, que nous connaissons bien, mais nous ne comprenons pas toujours la profondeur de ce que Jésus nous dit. On va lire donc dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 17. On connaît bien ce passage. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Là, je voudrais attirer votre attention aussi sur ce que je dis. Un autre consolateur. Afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Donc là, Jésus, en parlant du Saint-Esprit, il dit à ses disciples, vous le connaissez. Ah, c'est bien, on le connaît. Si Jésus affirme, il dit, vous le connaissez, et il dit, car il reste avec vous, et il sera en vous. Dans d'autres versions, par exemple, dans la version 8 secondes, il est dit ceci, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Et la version Semeur dit ceci, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Alors, nous comprenons que Dieu a toujours été le consolateur pour son peuple. Il a toujours été un consolateur. Par exemple, dans le psaume chapitre 94, verset 19, donc il dit ceci. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Tes consolations. Là, l'auteur, il savait que Dieu était son consolateur. Il dit, tes consolations me rendent la joie. Oui, il arrive parfois que dans nos vies, nous sommes agités par une foule de pensées. Mais Dieu est le consolateur. Il y a également Ésaïe, chapitre 51, verset 12, qui dit ceci. C'est moi, là c'est Dieu qui parle à son peuple. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir et du fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'air? Là, le Seigneur parle à son peuple, dit, c'est moi qui vous console, je suis le consolateur. Et également au chapitre 66, c'est toujours dans Ésaïe, verset 13. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Amen. Là, Dieu parle à son peuple, dit, tout comme une mère console son enfant. C'est quelque chose qui nous est familier? Oui, nous savons. Une mère qui console son enfant. Et là, Dieu, il dit, moi je vous consolerai, je suis votre consolateur. Le consolateur. Alors, en revenant à ce que Jésus a dit donc dans Jean chapitre 14, verset 17, il nous parle d'un autre consolateur. Le mot utilisé ici, hein, paraclé en grec, c'est parakletos, c'est un mot d'origine grecque qui signifie celui qu'on appelle à son secours, appelé auprès de soi, ou celui qui intercède. Ce mot est traduit également par avocat, par défenseur, intercesseur. Donc là, Jésus parle d'un autre consolateur. Autrement dit, Jésus voulait faire comprendre à ses disciples, moi, je suis le consolateur. Physiquement, aujourd'hui, je suis avec vous, mais un jour viendra où je serai en vous par mon esprit. Et Et ce qui est intéressant, donc là Jésus annonce la présence de Dieu dans le croyant par son esprit. Et dans Jean, tu peux mettre ce passage s'il te plaît, Jean chapitre 20, versets 19 à 22. Après sa résurrection, Jésus va faire une action remarquable. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie et en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et je voudrais attirer votre attention. La suite. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc là, Jésus, après sa résurrection, il souffla sur ses disciples et dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, nous nous souvenons ce qui s'est passé dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7. Il dit ceci. Je vous laisse. Que l'Éternel, Dieu, façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Autrement dit, Dieu a soufflé sur l'homme pour que l'homme a reçu l'Esprit de Dieu. L'homme est devenu un être vivant. Dieu a façonné de poussière et lui a donné un corps merveilleux, mais un corps sans esprit. Vous voyez. Et là, Dieu souffle, dans son esprit, la langue devient un être vivant. Ce jour-là, ce soir-là, Jésus, il souffle sur ses disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il s'est passé quelque chose. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Donc, nous comprenons bien que par la nouvelle naissance, le croyant naît de l'esprit et par conséquent devient le temple de Dieu.
Amen.
Parce que Dieu est esprit. Le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul dira ceci aux croyants de la ville de Corinthe. Chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas? Ouais. Oui, deux Corinthiens. Ouais. Oh, pardon. Je dis un Corinthiens, 3, chapitre 3, verset 16. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là, Paul rappelle à ses chrétiens, à ses croyants, pour leur dire que sachez une chose, vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite vous. Vous êtes le temple. Alors, le mot temple est utilisé en grec, naos, hein, est utilisé pour désigner le temple, utilisé pour le temple à Jérusalem. Mais seulement pour l'édifice sacré lui-même, hein, autrement dit, le sanctuaire, le lieu saint, le lieu très saint, c'est-à-dire un lieu sacré. Et ce mot vient également du mot primaire naos qui nous dit demeurer, demeurer, hein, du temple. Et nous comprenons bien que notre relation avec Dieu, c'est une relation spirituelle profonde. Et effectivement, il y a un mystère là, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours comprendre par notre intelligence humaine. Et j'ai fait attention à une chose, que les Écritures nous disent ceci, qu'il existe un temple dans le ciel. On va lire quelques versets dans Apocalypse. Il ne s'agit pas d'un temple physique, d'un bâtiment, mais on va voir ce que les Écritures nous disent. Donc, Apocalypse, chapitre 3, versets 12 et 13. Là, le Seigneur Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie. Donc, Apocalypse, chapitre 3, versets 12 et 13. Le Seigneur Jésus dit ceci. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Là, le Seigneur Jésus dit, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Ah ouais, il y a un temple au ciel. Ah ouais. Bon, il ne s'agit pas d'un temple physique, comme certains peuvent le penser. On va lire également dans Apocalypse 11, chapitre 11, verset 19. Apocalypse 11, chapitre 11, verset 19. Ouais. Alors, le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc là, dans sa vision, Jean voit qu'il nous dit que le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. C'est intéressant d'ailleurs, Simon l'avait également avait beaucoup parlé sur le tabernacle, que le tabernacle, Dieu avait demandé à Moïse de le construire selon le modèle que Dieu lui a montré. Autrement dit, il y avait déjà quelque chose dans le ciel et il fallait reproduire sur la terre. Ce qui est invisible est devenu visible. Parce que le tabernacle, c'est en quelque sorte le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Le tabernacle, on va voir un peu plus loin également, incarne également la personne de Jésus, ainsi que l'Église. On va lire, on va continuer notre lecture dans Apocalypse 21. Maintenant, le chapitre 21, versets 1 à 4. Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 4. Et là, déjà, on arrive au verset 21. Il s'était déjà passé quelque chose au verset, au chapitre 19. Il y a eu quoi? Vous vous souvenez? Le festin des noces. Ouais. Un événement glorieux. Et là, Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Là, il nous est parlé de la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son mari. C'est qui cette mariée? L'Église. C'est nous, les rachetés. D'accord? Il est parlé, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Dieu habitera avec eux. Et ce qui est intéressant, toujours dans le chapitre 21, au verset 22, il est dit ceci. Verset 22, il est dit ceci. Je ne vis pas de temple dans la ville. Ah, on nous parlait déjà de temple. Et là, il est dit, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le temple. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, le temple du ciel n'est pas un bâtiment, n'est pas un édifice, parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, lui-même sera le temple. En d'autres termes, la gloire de Dieu, en même temps, illumine le ciel et le définit comme le temple. Et nous pouvons dire ainsi que le ciel tout entier est le temple, parce que la gloire et la présence de Dieu l'inondent de toutes parts. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Jésus, en tant que Dieu, sur la terre, était le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit quand il est arrivé à Jérusalem? Quand il a vu tout ce qui se passait dans le temple, il va faire un ménage. Et il dit ceci, donc, on va lire cela donc, dans Jean chapitre 2, versets 19 à 22. Jean chapitre 2, versets 19 à 22. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc là, les Juifs vont dire, mais Jésus, tu parles du temple, mais ce temple a été construit plusieurs années, et toi tu vas le détruire. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Et Jésus, la parole nous dit concrètement que Jésus parlait du temple de son corps, parce qu'il était, le temple de Dieu. Il était le temple de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Vous voyez? Sur la terre, nous sommes le temple de Dieu. Mais là aussi, le ciel est un temple. Vous voyez, on est vraiment unis avec Dieu en esprit.
Amen.
On est unis avec Dieu en esprit. C'est pour cela que Paul dira même ceci, que celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Aujourd'hui, Dieu habite en nous par son esprit Et nous sommes le temple de Dieu. Alors, il y a une nécessité de préserver ce temple, une nécessité de préserver son corps et son esprit dans la sainteté. C'est pour cela que Paul va s'adresser aux croyants de la ville de Corinthe. Il va dire ceci. On va lire cela dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 17 à 20. En Corinthiens, chapitre 6, versets 17 à 20. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans ce chapitre, Paul appelait les croyants à la sainteté, à réaliser que nous sommes le temple de Dieu. Et nous devons préserver notre corps et notre esprit. Et également, on peut lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, jusqu'au chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Jusqu'au chapitre 7, verset 1. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec les croyants? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En fait, ces paroles-là que Paul est en train de dire, c'est des paroles qui étaient déjà annoncées au peuple d'Israël à l'époque. Et en continuant au chapitre 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, il s'agit de quelles promesses? Dieu avait dit que j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'était des promesses. Donc là, Paul continue en disant, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Dieu habite en nous par son esprit et il nous appelle à préserver notre corps, notre esprit dans la sainteté. C'est notre responsabilité. Oh oui, parfois les premiers vont dire, oui, Jésus me purifie. Mais là, il dit, purifions-nous. Il y a des choses que nous devons faire. Ce n'est pas Dieu qui va te purifier. S'il y a des choses qui te souillent, des images que tu regardes qui te souillent, mais c'est à toi de dire non. Réfléchissons à cela. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grâce, parce qu'on a besoin de sa grâce tous les jours. Et je vais terminer par là, ce soir. Dieu qui a conclu son alliance avec nous. Il a payé un prix. Son sang versé. Et il dit qu'aujourd'hui, nous sommes le signe de cette alliance. Nous sommes le sel de la terre. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies, de nous avoir donné ton esprit, Saint-Esprit. Seigneur, nous réalisons notre dépendance, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Viens nous combler de toi, Saint-Esprit. Viens ouvrir nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, et nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Merci pour cette œuvre que tu as déjà commencée dans nos vies. Que tu puisses continuer à nous transformer pour que nous soyons vraiment le sel de la terre. Que nous puissions apporter cette valeur spirituelle autour de nous, dans ce monde corrompu. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir notre adoration. Toi, l'agneau immolé. Toi, Seigneur, qui est l'époux. Et merci pour toutes tes promesses, pour tout ce que tu as prévu lors de ce festin des noces. Nous voulons y participer, Seigneur. Et garde-nous par ta main puissante. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Que Dieu nous bénisse.
Amen. Merci.